Et bonjour tout le monde. Petite balade, alors elle risque d'être peut-être un petit peu mouvementée parce que là on est en Allemagne dans un parc national, il y a beaucoup de gens très civilisés on va dire, et puis Oli se balade sans laisse. Alors je m'attends à tout moment à me faire allumer. Bref, c'est pas grave, je suis content de vous retrouver, je suis David Goss, donc rédacteur web et formateur au Cercle des Rédacteurs. Je m'entraîne à me présenter parce qu'il y a plein de gens qui tombent sur le podcast sans savoir qui je suis. Donc voilà, et le sujet que j'avais envie de traiter avec vous aujourd'hui, la chose qui m'est venue, c'est cette chose étrange et qui est philosophiquement un objet intéressant à questionner envers nous-mêmes pour notre propre manière d'être. C'est la question, si je vous donnais absolument tout, est-ce que vous sauriez quoi en faire? est-ce que vous en feriez quelque chose de bien, si je vous donnais absolument tout? Parce que j'ai vécu, et beaucoup de gens qui ont mon âge, j'ai la quarantaine, j'ai vécu ce changement de paradigme étrange. Là, je suis en train d'écouter, je me suis interrompu pour enregistrer ce podcast parce que l'idée m'a semblé vraiment forte et j'avais vraiment envie de la partager avec vous, mais j'écoute l'interview du patron de Infomaniac, c'est le podcast Tech Café qui a sorti un numéro spécial, et donc le patron d'Infomaniac disait « Je me souviens de l'arrivée d'Internet ». Avant, il fallait aller dans les kiosques, acheter des magazines dans lesquels il y avait des CD-ROM. Il fallait installer des versions qui pouvaient être buggées ou pas. Des fois, on commandait des choses en ligne. On recevait des jeux vidéo qui marchaient pas. On pouvait rien faire. Il n'y avait pas de recours. Mais c'était OK. C'était un peu comme si c'était une fois bon, une fois pas bon. Et on essaye d'avancer comme ça. Et puis, on a une vision. En fait, on voit le monde du numérique par... C'est bien, Oli. Quand il y a un cycliste, Oli s'arrête et m'attend. Pour éviter de passer sous les roues du cycliste. Donc voilà. Et donc, en fait, on voyait la technologie, on voyait ces avancées de dingue. On savait qu'il y avait des jeux vidéo sur ordinateur, ça on le savait, c'était sûr. Mais on n'avait aucune idée du reste, on ne savait pas qu'on pouvait discuter avec des gens à distance. Mais on voyait tout ça au travers d'une lorgnette. Votre magazine préféré vous donnait... quelques shareware, comme on disait, ou des freeware, si vous aviez de la chance. Vous pouviez utiliser des logiciels qui étaient offerts gracieusement, vous savez même pas pourquoi. Bref, on n'avait rien. C'était compliqué. Moi, je me souviens que j'avais des copains, on se retrouvait en ville, dans des endroits un petit peu louches, et on s'échangeait des CD gravés de logiciels et de choses comme ça. Je m'en plains pas, j'ai vécu des choses géniales, j'ai découvert aussi les premiers DivX, les choses comme ça, mais il n'y avait pas Internet. Moi, je me souviens de la période avant 95, il n'y avait pas Internet. Et puis Internet est arrivé, et au début, il n'y avait pas grand-chose sur Internet, mais c'était déjà un peu magique. On voyait des choses, moi il s'est passé plusieurs années avant que j'ose mettre ma carte bancaire sur Internet. Mais voilà, on a laissé une technologie naître, on a créé un continent vierge et qui aujourd'hui se peuple toujours de plus en plus avec des nouvelles générations, des nouvelles choses, etc. Mais aujourd'hui, très concrètement, très sincèrement, le web contient tous les savoirs du monde. Quelques petites choses près, mais 99% de toutes les connaissances de l'humanité depuis l'origine de l'humanité sont sur Internet. Et c'est fou quand on y pense. Surtout quand on pense que ChatGPT s'est entraîné sur tout Internet. Et que donc ChatGPT est la mémoire du monde vivante avec laquelle on peut parler. Donc ça en devient étourdissant. Vous le comprenez, c'est quand même vraiment impressionnant comme paradigme. Et si on va plus loin, il y a la version légale où vous pouvez acheter séparément toutes les choses qui vous intéressent, les films, les séries, on ne parle même pas des catalogues Netflix et compagnie, juste films, séries, etc. Mais aussi des livres, vous pouvez acheter des objets culturels, vous pouvez acheter des objets de savoir, etc. Mais vous pouvez tout à fait aussi pirater toutes ces choses-là. Il existe des choses comme Z-Library, qui est connue comme le Loup Blanc, qui est une bibliothèque de 11 millions de livres offerts, cadeaux, pirates. Je veux dire, la connaissance du monde, la grande, la gigantesque connaissance du monde est disponible aujourd'hui à toute personne ayant une connexion à Internet. C'est étourdissant. Et la question, c'est qu'est-ce que vous en faites ? D'accord ? Vous avez des formations aujourd'hui sur Udemy, elles sont à 10 euros les formations la plupart du temps. À 10 euros, vous avez des compétences qui arrivent. Est-ce qu'elles sont bien faites, les formations ? C'est une autre question. Mais vous avez des compétences qui pleuvent de partout. Vous pouvez apprendre des métiers très rapidement. J'ai fait un entretien avec un doctorant dans le domaine médical hier qui voulait devenir rédacteur web. On a parlé de sa spécialisation, justement de son diplôme extraordinaire et de son niveau d'expertise. Et je lui ai dit, on peut quasiment tout faire à ChatGPT, on peut quasiment tout demander à un rédacteur web, mais on ne peut pas lui donner ce que vous avez. Donc, cherchez pas à devenir comme tout le monde, utilisez votre diplôme et vous êtes unique. C'est vrai, je le pense, et ça fait partie de ces spécificités du monde, de ces raretés encore, mais aujourd'hui, si je prends le moindre texte extrêmement complexe que ce docteur d'ailleurs, arrive à maîtriser et à comprendre, et que je le donne à ChatGPT en lui disant « explique-moi ça comme si j'avais 6 ans », ChatGPT va me l'expliquer et je vais comprendre en profondeur les choses. Alors peut-être pas comme si j'avais 6 ans, mais je vais comprendre des choses, plein de choses. Est-ce qu'elles vont m'intéresser ces choses ? Ça c'est une autre question, parce que l'intérêt vient avec la construction mentale. Mais les connaissances sont aujourd'hui, de manière totalement folle, accessibles à l'ensemble de l'humanité. Vraiment. Et je voulais d'abord, sur cette première étape-là, qu'on s'arrête un instant et qu'on se dise « Ok, tout a été mutualisé, toutes les connaissances du monde le sont. C'est quelque chose d'extraordinaire, une célébration dans le domaine de la civilisation mondiale. Vraiment, vous pouvez donner, je reprends l'exemple de ChatGPT parce que c'est l'outil le plus avancé dans le domaine, mais vous pouvez donner un texte dans n'importe quelle langue quasiment à ChatGPT. On attend Bard, Palmi 2 et tous les autres. On attend qu'il y ait des concurrents à ChatGPT parce que pour l'instant, Claude 2 est peut-être dans les cartons comme étant une belle promesse, mais il est en anglais et puis il marche pas aussi bien que GPT-4. Donc on attend qu'il y ait de la concurrence, mais pour l'instant, c'est ChatGPT qui prend la main. Mais vous lui donnez n'importe quel texte, il vous le traduit dans n'importe quelle langue. Ou vous lui posez des questions sur des textes qui sont dans une langue que vous ne comprenez pas, et il vous l'explique, ce qui a été dit dans le texte. On est sur quelque chose qui, là, déjà, est extraordinaire, mais Google travaille sur une version de son Palmi 2, donc, qui est 100% audio. C'est-à-dire, il entend et il traduit en instantané. Ça passe même pas par une phase écrite. L'universalisme est devant nous. L'universalisme des connaissances, des compétences, des savoir-faire et le partage entre toutes les nations, l'unification de toutes les langues, enfin c'est mal dit, pardon, toutes les langues dans leur respect et dans leur distance et dans leur culture auront des traducteurs universels. Je veux dire, c'est énorme, donc il y a des gens pour et des gens contre. Dès que c'est énorme, il y a des gens pour et des gens contre. Mais c'est dans Star Trek, pardon, dans la série, ils ont des communicateurs qui traduisent automatiquement les langues de toutes les personnes du monde et de l'univers, ce qui fait que, donc pour le coup, ils sont tous unis et peuvent vivre des choses communes. On est là. Et j'aimerais savoir quel est l'impact que ça va avoir. Déjà, on a un impact sur le télétravail, c'est-à-dire les gens peuvent maintenant quitter les villes et continuer à travailler, s'installer à la campagne, etc. C'est déjà extraordinaire. On a une désertification légère, une tendance des villes vers les campagnes. On a des villes de petite taille ou de moyenne taille qui commencent à se peupler. On a des appels du pied de certaines villes qui disent « on va installer la fibre, venez vous installer chez nous ». On va avoir des choses incroyables qui vont apparaître grâce à ces technologies. Mais en plus, on pourra vivre partout dans le monde en portant, ben, notamment Google a présenté des lunettes qui traduisent automatiquement toutes les langues autour de vous. Et donc, quand vous parlez, si les autres ont le même dispositif, ben, c'est comme si vous parliez la même langue. Donc, troublant. Et c'est que le début. Et je vous rappelle que tout ça a commencé en mars 2023. novembre 2022 pour GPT-2, mais il nous a pas vraiment... Enfin non, GPT-3, pardon, mais il nous a pas... Il nous a un peu impressionné, mais à l'époque, je lui avais donné la note de 13 sur 20, en disant, je l'ai poussé à fond, ça vaut du 13 sur 20. GPT-4, il est arrivé, il a tapé à 19 sur 20. Donc, voilà, GPT-4, il passe des diplômes. D'accord ? Il devient médecin. Il est médecin, il est avocat, il passe tous les diplômes, sans problème. Et puis, il sort major à chaque fois. Donc, on est sur ça. Les gens ont peur de cette technologie parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter dedans. Ils n'arrivent pas à imaginer ce que ça fait. Moi, j'ai vu ma mère qui m'a dit « J'ai allumé ma Freebox. Je voulais regarder un truc à la télé. Il y avait juste le logo de Free et rien de plus. J'ai pris ChatGPT, je lui ai dit « Eh, ma télé, je l'ai allumée. » Comme ça, hein. « Ma télé, je l'ai allumée. Il n'y a que le logo de Free, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et ChatGPT lui a donné 6 conseils à faire, 6 manœuvres à faire en disant si ces 6 manœuvres ne sont pas efficaces, eh ben contactez quelqu'un pour qu'il vienne dépanner. Bah, ça s'est résolu grâce à ça. Et elle m'a dit, j'ai quelqu'un qui sait avec moi maintenant, tout le temps dans ma poche. J'ai quelqu'un qui sait. Et c'est extraordinaire. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, on va abandonner les personnes âgées à cause de ChatGPT. Et à cause de toutes ces nouvelles technologies, on va les isoler encore plus. On va leur refiler des machines avec des générateurs de langage qui vont faire semblant de leur parler et de les aimer. Ok, j'entends, très bien. Bon, bien sûr, moi ça fait des mois que je travaille avec ChatGPT, je suis toujours pas dupe. Hein. Je continue à savoir que c'est pas du tout un humain ou un objet qui réfléchit. C'est une machine qui produit du texte. Donc je me fais pas d'illusions, je suis pas perdu par rapport à ça. Mais peut-être qu'il y a des gens qui pourraient se faire avoir. Après tout, on pense à l'application Replica, qui est quand même un simulateur de petit ami, où les clients disent « je n'ai jamais été aussi bien compris de ma vie ». Donc je pense qu'il y a des gens qui se font avoir. Surtout qu'il y a eu une mise à jour de Replica, où ils ont enlevé tout le côté intime pour le rendre payant sous forme d'abonnement. C'est-à-dire si vous voulez parler cul avec... votre petit ami sur Replica, bah, va falloir payer un abonnement. Bon business model. Pardon. Ah, je m'installe dans un kiosque en pleine forêt. D'où ça résonne un petit peu, parce que c'est les kiosques allemands assez lourds en charpente. Mais en tout cas, Replica, on peut le confondre. Alors, il y a des gens qui ont commencé à travailler sur des modèles pour aider les personnes âgées. Et moi, j'ai trouvé ça au début un peu glaçant. L'idée qu'une personne âgée soit avec une machine qui la surveille. Vous savez, des caméras fixées un peu partout, des haut-parleurs un peu dans toutes les pièces. La personne parle, ça répond. C'est un peu comme si la maison avait une voix. Ça vous rappellera peut-être la série télé Eureka, qui était super drôle, qui était super bien. Où justement, c'est... Eureka, c'était une ville, c'était une utopie imaginée par Albert Einstein, ils en ont fait une série, qui était d'imaginer une ville dans laquelle on avait rassemblé tous les plus grands savants du monde, avec pour objectif d'améliorer l'humanité. Et donc, ça s'appelle Eureka, c'est le nom de la ville. Et c'est la série autour de cette ville, et dans chaque épisode, en fait, c'est la fin du monde. Il y a un flic, qui est un flic tout à fait normal de campagne, qui s'est retrouvé embringué là-dedans, qui est devenu shérif de la ville et qui doit sauver le monde à chaque fois parce que les scientifiques, ils ont fait une grosse connerie. Ils ont ouvert des failles parallèles, ils ont créé des tremblements de terre. Enfin bref, c'est très drôle. Voilà. Mais dans Eureka, la maison du shérif a une intelligence artificielle qui s'occupe du shérif, qui lui dit « Vous êtes un peu déshydraté, je vous ai servi un peu d'eau, votre fille a appelé déjà 3 fois, ça serait mieux pour votre équilibre émotionnel de régler le problème avec elle, je vous ai proposé des réponses par avance, etc. » Et donc c'est très drôle parce que lui, il est très pratique et pragmatique et il comprend pas qu'une maison lui parle. Donc c'est, voilà, c'est ça peut-être la suite. C'est-à-dire les personnes âgées vont se réveiller, ils vont dire « Mireille !» parce que c'est comme ça qu'elle va s'appeler. « Mireille, je vais pas bien, ceci, cela, je vous ai programmé. » Donc c'est une machine qui pourrait programmer des rendez-vous, parce qu'on sait que Google sait faire ça. C'est une machine qui pourrait veiller à la santé, parce qu'on sait qu'on a des trackers qui le permettent, ne serait-ce que dans les montres aujourd'hui connectées. On a beaucoup de trackers qui permettent de relever beaucoup d'indices de santé, et de plus en plus, là, la dernière mise à jour de la montre d'Apple, il y en a une autre qui va arriver bientôt, je ne sais plus quand, mais elle permet de capter la température. Ce qui permet de calculer les cycles menstruels et les cycles d'ovulation. C'est pas rien, c'était un peu compliqué à faire techniquement avant, maintenant votre montre le fait automatiquement avec des algorithmes complexes qui permettent, moyennant beaucoup d'autres indices, de savoir ces choses-là, ce qui intéresse, j'imagine, énormément les gens concernés. Mais moi, je peux pas désactiver cette application, donc je sais pas pourquoi moi j'ai ça. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une multitude de choses que cette Mireille 2.0 pourrait faire, pour les personnes âgées, et surtout, alors j'ai vu un cas d'usage qui m'a semblé super intéressant, la personne disait, oui, vous dites que votre grand-père est isolé parce qu'il a un logiciel, alors moi je l'appelle Mireille pour l'exemple, mais je sais pas comment il s'appellerait, et dans l'idée, justement, la personne qui imaginait cette feature-là, ce cas d'usage-là, dirait, ça c'est quand il y a une seule personne qui a Mireille, on est d'accord, mais imaginons qu'il y en ait deux, et que les deux soient amis dans la vie. Et ben en fait, la personne, quand elle se lève le matin, elle pourrait dire, hey, « Hé, Mireille, dis à Paul que je vais bien, ou que ceci, que cela. » Et Mireille envoie un message à l'autre Mireille pour le transmettre à son ami. C'est-à-dire, on arriverait à un degré où c'est un peu comme un assistant qui fait tout ce que vous demandez. Donc, pour le coup, ça devient, « Tiens, je verrai bien Paul, tu peux regarder dans son agenda. Écoutez, Paul est disponible demain après-midi. D'accord, demande-lui s'il a envie de faire un foot. » Et puis, oui, il confirme. Très bien, hop, c'est organisé. On le fera tous, hein, ça sera notre manière de fonctionner. On arrêtera de se poser des questions, de s'envoyer des petits textos. On va demander à un assistant de poser la question à un autre assistant qui va poser la question à son propriétaire. Ça va être beaucoup plus simple. Mais on est dans tous ces nouveaux cas d'usage qui arrivent et qui, en fait, ont comme principal objectif de fluidifier le comportement des gens en société. C'est des nouvelles civilisations qui arrivent. C'est pour ça qu'on parle de révolution avec l'intelligence artificielle, parce que d'un coup, tout le monde se retrouve avec des assistants. C'est assez dingue. Et comme je vous disais, même ma mère commence à utiliser ça. Pour elle, c'est un soulagement immense, parce qu'elle avait trois possibilités par rapport à un problème informatique qu'elle pouvait avoir. Elle a 70 ans aujourd'hui. Le premier problème, la première solution, c'est de laisser tomber. La deuxième, c'est... on va en donner quatre pour le plaisir, mais la deuxième, c'est de chercher sur Internet et donc sur Google et de lire des pages et des pages pour essayer de trouver quel est le problème, donc d'être un diagnosticien, d'être un technicien, ce qui est quand même compliqué. La troisième, c'est d'appeler directement Free et tomber, en espérant tomber sur quelqu'un de bonne humeur qui va faire son boulot comme il faut et qui va pas perdre patience et qui va pas... Voilà, donc il y a un peu cette appréhension qu'on peut avoir aussi. Surtout chez Free. Et expérience personnelle, hein, si jamais quelqu'un de Free m'écoute. Ah là là, pardon. J'ai des alertes sur mon téléphone qui arrivent en même temps. En tout cas, la quatrième option, qui est celle que ma mère utilise le plus, c'est de m'appeler moi. Et moi, je résous le problème. Voilà, ça c'est depuis toujours. Je lui ai souvent dit qu'elle m'avait créé pour ça. Que ma mère, en fait, a trouvé que la vie était trop compliquée. Elle s'est dit qu'elle allait faire un enfant qui allait s'occuper de la simplifier pour elle. Bon, c'est mon job. Néanmoins, il y a une nouvelle option qui arrive, qui est de poser la question à ChatGPT, qui va donner des réponses basées sur des connaissances qu'il a d'avant 2021, parce que son corpus de connaissances ne dépasse pas ça. Mais il y a quand même déjà beaucoup d'éléments qu'on peut réutiliser. Donc, on peut poser toutes les questions qu'on veut à ChatGPT. Vous vous rendez pas compte ? Je vous ai dit au début de ce podcast... Vous avez accès à toutes les connaissances du monde. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas demander à ChatGPT de vous sauver la vie ou de choisir un chemin pour vous. Par contre, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous ne poserez jamais à quelqu'un. D'accord ? Combien de temps est-ce qu'on peut marcher chaque jour sans avoir mal aux jambes ou se retrouver avec un problème de santé si vous décidez de faire le tour du monde à pied ? C'est une information importante. Donne-moi des explications sur comment faire le tour du monde, quel est le meilleur itinéraire. Selon toi, fais-moi des propositions, de manière à étudier la carte. Vous avez la possibilité de lui demander comment séduire une femme ou un homme, comment lui faire comprendre des choses. Il n'est pas parfait, il va vous donner des réponses lambda et génériques qui sont disponibles sur Internet, mais c'est bien celle-là qui vous intéresse. Et puis si vous personnalisez un peu la chose en disant c'est un geek avec des lunettes, c'est quelqu'un qui adore les voitures électriques, c'est quelqu'un qui je sais pas quoi, il va vous développer des réponses spécifiques à ça, ce qui est vraiment, c'est royal quoi, c'est du coaching directement adapté à votre cas d'usage à vous. c'est quand même la chose la plus merveilleuse qui soit en termes de conseils, quelque chose de 100% personnalisé. Donc bien sûr qu'il y a des gens qui vont arriver avec des propositions là-dessus, surtout que les modèles de langage sont en train d'évoluer aussi et deviennent, sans devenir forcément beaucoup plus performants que GPT-4, qui est... Enfin, on n'est toujours pas arrivé au bout de sa performance à lui. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas ce qu'il est vraiment capable de faire parce qu'on lui trouve à chaque fois des nouveaux usages et on le pousse à chaque fois encore plus loin dans ses retranchements. Donc, on n'a pas encore fait le tour de GPT-4. Mais néanmoins, on arrive... Alors, GPT-4 est immense, vraiment immense, hein. Il a 1800 milliards de paramètres supposés. Il combine 8 GPT-3 connectés à un 9e GPT-3 qui s'occupe de la distribution et de la mise en synchronisation de tous ces 8 GPT-3 qui tournent en même temps. Donc c'est une machine totalement brute, hyper spécialisée, chacun des 8 est hyper spécialisé dans des domaines, etc., etc. Donc c'est une petite merveille d'ingénierie, mais elle est totalement gigantesque. Bon, le boulot des ingénieurs aujourd'hui, leur grande passion, c'est de réussir à baisser la taille de ce truc, et on suppose, et ça n'est que théorie aujourd'hui, mais c'est les théories des ingénieurs qui travaillent là-dessus, que d'ici 5 à 10 ans, on devrait pouvoir les faire rentrer dans une montre intégralement. Et je ne parle pas d'une montre avec un énorme disque dur, même si dans 5 à 10 ans, c'est tout à fait probable qu'il y ait un énorme disque dur dans les montres. Mais je parle de modèles de langage complets, personnalisables, qui vous connaîtront très bien, qui apprendront de vous et qui seront dans une enclave fermée, étanche, et que personne ne pourra venir consulter, et qui sera, voilà, l'équivalent de Her, si vous avez regardez le film de Spike Lee, je sais plus, bref, Her, H-E-R, jetez un coup d'œil sur ce film, qui est une pure merveille pour vous raconter ce que c'est qu'un cas d'usage de l'intelligence artificielle, et à quel point aussi ça peut se barrer en couille. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est jouer, c'est mignon, c'est tendre, on a envie de pleurer tout le temps. Je vous jure, ça va être une expérience géniale. Her, H-E-R. Néanmoins, ça tient dans une montre, ça tient dans un ordi, ça tient, voilà. C'est connecté, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas déporté. Aujourd'hui, quand j'utilise ChatGPT, même si je l'utilise sur mon téléphone, il y a une connexion Internet qui envoie des requêtes à un méga ordinateur qui va m'envoyer la réponse après. Donc on n'est pas sur quelque chose qui pourrait éventuellement m'appartenir. On n'a pas ça. Donc, je sais pas quoi. Donc, pardon, il y a de la visite. Bonjour. Bref, donc, les cas d'usage de ce côté-là, on les découvre à peine. Simplement, ce qu'on va amener aux gens, c'est toutes les connaissances du monde. On arrive dans une évolution de l'humanité où toutes les connaissances et tous les savoirs du monde, qui ne veut pas dire tous ceux à venir, parce qu'on est toujours en production. Mais aujourd'hui, les intelligences artificielles surveillent les mises à jour sur Internet et vont chercher plus d'informations encore sur les choses. Imaginons que vous vouliez investir dans de la bourse. Vous pouvez très bien... plus tard, quand ce sera mieux développé, demander à une intelligence artificielle au petit déjeuner, tiens, je vais avoir 200 euros à investir en bourse, dis-moi s'il y a une action qui a été sur la descente pendant les derniers mois et qui aurait des raisons d'actualité de pouvoir reprendre dans les 2-3 prochains mois, fais-moi des propositions. Et là, il va proposer des choses et expliquer et je vais pouvoir choisir dans quoi je mise et comment je fais. Donc, c'est remarquablement intéressant. Je ne vais pas faire un chapitre sur la sécurité de ces choses-là, parce que, bien sûr, influencer ces modèles-là qui seraient accessibles à tous, c'est avoir le pouvoir du monde. Déjà là, on a le problème que c'est des blancs cisgenres américains et européens principalement qui ont composé, et des hommes, qui ont composé cette machine. Donc, pour le coup, on a un petit peu des problèmes de représentation des autres ethnies du monde. Bon, dans le même genre, un autre problème, c'est que certains pays n'ont pas encore eu le temps de mettre en ligne leur culture, l'intégralité de leur culture actuelle et passée, et de leur système. Voilà. Ce qui fait que, pour le coup, il y a assez peu de traces d'eux en ligne, ce qui fait que ChatGPT a assez peu de traces d'eux. Par exemple, demander à ChatGPT comment se passe un mariage malgache. Vous allez voir qu'il est un petit peu à côté de la plaque. Mais bon, il peut essayer. Donc tout ça, c'est pour vous dire que vous avez aujourd'hui, via Internet, la totalité des connaissances du monde. Je rigolais avec mes élèves pendant la formation qu'on vient de terminer, rédacteur pro. La prochaine débute début octobre. Dépêchez-vous si jamais vous voulez vous inscrire et que vous avez besoin d'un financement, parce que les financements peuvent prendre un peu de temps. Donc contactez-nous vite pour qu'on puisse vous accompagner. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que quand je discutais avec mes élèves, à un moment donné, on avait un peu rigolé à propos de est-ce que prendre un livre sur Z Library, donc cette bibliothèque pirate, est-ce que c'est du vol ou pas ? Alors, moi, j'estime, mon avis personnel, hein, c'est que si vous avez les moyens d'acheter le livre, achetez le livre. Voilà, il faut soutenir l'économie, il faut arrêter les conneries. C'est bon, vous n'avez pas économisé 20 balles. Si le livre, vous êtes sûr de le prendre, prenez-le. Autre cas d'usage qui a été donné par Koran, je ne sais plus, un podcasteur que j'aime bien en plus, avec qui je discute de temps en temps. Lui, il disait, je vais télécharger plein de bouquins sur Z Library, je regarde les énoncés, je regarde les bouquins, et quand il y en a qui me plaisent, je vais les acheter. J'aime bien aussi. C'est un bon raisonnement, pourquoi pas. C'est même mieux de faire comme ça, pourquoi pas. Mais il y a des gens dans le monde avec qui je travaille, parce que notre formation et nos formations sont ouvertes à toute la francophonie, donc on côtoie le monde entier. Il y a des gens qui n'auront jamais accès aux connaissances, parce que les livres ne sont pas disponibles chez eux. Et moi, j'ai un problème avec cette notion de culture à deux vitesses. Donc, de ce côté-là, moi, je leur dis, la réponse que l'humanité vous a faite face à cette injustice d'accès à la connaissance, c'est d'avoir créé un modèle pirate qui permet justement d'accéder à ces connaissances réellement et de pouvoir, je sais pas, par exemple dans mon cours je dis on retrouve ça dans le livre Tribu de Seth Godin. Bon, s'il y a des gens qui me disent on ne pourra jamais lire ce livre, je leur dis si, il y a une partie de l'humanité qui a estimé qu'en effet les connaissances devaient être accessibles à tous sans limite, donc si. Mais maintenant, encore une fois, si vous êtes dans un pays qui vous permet d'avoir ce livre légalement et que vous avez les moyens de l'acheter, faites-le. Mais c'est une manière de vous dire que ce débat de « est-ce qu'on a volé le livre ?», moi j'avais répondu « si vous n'avez pas lu le livre, vous ne l'avez pas volé. » C'est-à-dire, vous pouvez posséder des livres, vous avez des bibliothèques chez vous, on est d'accord. Vous pouvez posséder des livres, peut-être des centaines, que vous ne lisez pas. Donc pour le coup, ils ne vous ont pas donné leur savoir. Donc vous avez des objets. C'est juste des objets, c'est pas des livres. Il y a des gens qui ont une espèce d'illusion de savoir, qui se disent, parce que mon livre est là, c'est comme si je l'avais lu. C'est pas vrai. Il y a un effort à fournir et un effort substantiel. Il y a des gens qui ont travaillé à développer des raisonnements, des explications, de la pédagogie, qui essayent de vous faire grandir ou de vous faire évoluer sur certains points de vue. Eh bien, si vous n'avez pas fait l'expérience qu'ils vous proposent, vous n'avez pas fait l'expérience du livre. Donc, le livre reste vierge et fermé pour vous. Et donc, vous n'avez rien volé du tout. Vous ne vous êtes pas emparé de la seule chose qui a de la valeur dans le livre, à savoir son savoir. Et c'est important de se souvenir de ça, parce que vous avez peut-être acheté des formations en ligne. Genre, moi, j'en ai une vingtaine sur Udemy, je crois, qui attendent qu'une seule chose, c'est que je me pose et que je les regarde. J'en ai encore une dizaine par ailleurs. J'ai des livres, j'ai des trucs. Là, j'ai fait l'énumération aujourd'hui. C'est fou. C'est fou. Cette masse de savoir qui n'est pas encore dans ma tête et qui est à la porte et qui attend juste d'être consommée, c'est fou. Sauf que le livre ou les vidéos de pédagogie ou ce genre de trucs, c'est compliqué. Il faut un temps, il faut une disponibilité, il faut un intérêt, il faut de l'attention pour pouvoir réussir à absorber ces choses-là. Sauf que c'est le seul moyen de grandir. Donc quand je vous ai posé la question au début de ce podcast, si je vous donne tous les savoirs du monde, qu'est-ce que vous en ferez ? La réponse, la plupart du temps, de ce que j'ai observé, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire, le moteur premier, il est à l'intérieur de nous. J'aime bien comparer les gens à des platines disques. On met un disque avec ses micro-sillons, on pose le bras avec le diamant, on le met dans le micro-sillon, on lance le disque, il se met à tourner. À ce moment-là, de la musique apparaît, du savoir apparaît, des conférences apparaissent, il y a plein de choses qui ont été enregistrées déjà sur des disques. Bon, le micro-sillon, on sait qu'il s'use, on sait qu'il faut de l'électricité pour transformer les vibrations du micro-sillon en son analogique, donc on voit qu'il y a un chemin qui doit être fait. C'est la même chose pour nous. Vous ouvrez un livre, vous posez vos yeux sur la première phrase et la musique commence. Sauf que ça consomme de l'énergie. C'est pas passif, d'accord ? C'est pas TikTok qui est le degré le plus faible à ma connaissance aujourd'hui de culture, enfin d'assimilation d'informations. Je crois qu'il n'y a pas plus faible aujourd'hui et donc de moins frictionnel que TikTok. C'est vraiment optimisé pour ça. Les gens, ça marche tellement bien que les gens perdent en moyenne 3 à 6 heures de leur vie par jour au niveau mondial et il y a 1 milliard d'utilisateurs. On est sur un truc totalement dingue avec TikTok en termes de consommation. Hein. Donc c'est vraiment que c'est absolument pas frictionnel. On bouffe ça, ça nous coule dans les yeux et ça va directement dans le cerveau avec le gras, tout ça. Mais c'est jouissif. Donc c'est un plaisir qui ne consomme pas d'électricité. Sauf que pour le coup, ben, après on peut monter, hein, on peut avoir les vidéos, donc les cours en vidéo, etc., qui eux aussi nous apprennent des choses, mais on a deux types de vidéos. On a les vidéos de formation qu'on paye où le formateur, il est chiant parce qu'il est devant son PowerPoint et il nous raconte des trucs et faut vraiment s'accrocher. Et puis, on a les vidéos sur YouTube faites pour plaire. Et alors là, même chose, c'est goulu, c'est plaisant, c'est pétillant, c'est stimulant, etc. Donc là, les savoirs s'acquièrent de cette manière-là. Et souvent, d'ailleurs, les gens ont dit, c'était Monsieur Phi, PHI, sur Internet, qui... et un ancien prof de philo qui disait « J'ai des profs de philo qui me disent qu'ils passent mes vidéos en cours et parce que mes vidéos sont plus amusantes. » Désolé pour les bruits, on est samedi et samedi, c'est la sortie des kékés. Donc, les grosses motos, les gros dragsters et les trucs comme ça, on est en Allemagne. Les vidéos de Monsieur Phi, plaisent suffisamment aux élèves pour que des profs de philo de terminale se proposent de les passer en début de cours. Et Monsieur Phi, il avait le raisonnement de dire « Merci, c'est très flatteur, mais c'est pas complet. C'est vraiment une approche divertissante de la philosophie. » Même chose pour Cyrus North, quand il attaque un peu la philosophie, c'est très, très light. Hein. On est sur des choses vraiment light. Mais essentielles pour comprendre les fondations et puis pour pouvoir aller plus loin. Mais c'est light. Donc, on est sur de l'entertainment, de l'information, je ne sais plus comment ça s'appelle, infotainment, un truc vulgarisateur scientifique, enfin bref, voilà, les nota bene, je ne sais plus comment il s'appelle, le scientifique maintenant. Bref, ou un de mes préférés, y penser, mais surtout parce que je me sens très en phase avec le personnage et pas forcément... parce que c'est hyper accessible. Il y a des moments où il m'a perdu, notamment sur toute la branche physique quantique. Là, j'ai lâché prise des deux mains. Et logique informatique. Là, j'étais paumé. Mais en tout cas, on a quelque chose. D'accord ? Donc, on en est là dans le raisonnement et on a toute cette diversité d'accès à l'information qu'on essaye de fluidifier toujours le plus possible. Je vous rappelle, hein, c'est pas le savoir qui est le pouvoir. Enfin, ça, si, une fois que vous avez beaucoup plus d'opportunités et de choses à saisir. Mais c'est le divertissement qui est vraiment le vrai grand pouvoir d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a des trucs genre YouTube qui sont quasiment 100% orientés divertissement. Tous les réseaux sociaux sont dégoulinent de divertissement. Il n'y a plus un endroit où il y a de l'astringent ou de l'amer... Si vous voyez, au niveau des saveurs, tout est sucré, doux, acidulé. Hein. Donc, on est sur du pétillant. Et en fait, on n'en fait rien de ces savoirs du monde. On n'en fait rien parce qu'ils nécessitent des efforts. Et pour qu'il y ait des efforts, il faut qu'il y ait un projet. Elon Musk, quand il a entendu dans une discussion il y a quelques années de ça que les budgets de la NASA coûtaient des millions et des milliards parce qu'il fallait à chaque fois reconstruire la fusée, il a dit « Mais pourquoi on ne la fait pas revenir ?» Et ses potes ont dit, ben, parce que c'est pas possible. Et le lendemain, il est allé dans une librairie, il a acheté tous les bouquins qui concernaient l'astrophysique, et il a commencé son point de départ comme ça. Ben ça, c'est le bon raisonnement, d'accord ? C'est le fait de dire, je dois d'abord préparer mon cerveau et mes connaissances. Donc, quand vous avez des nouvelles connaissances, ben, vous avez des nouveaux canaux de réflexion, d'accord ? Par exemple, si vous êtes rédacteur web et que vous devez écrire un texte pour un client, ben vous allez voir le site du client, vous dites « Ok, ça parle à peu près de ça, le blog il parle de ça, donc je vais lui proposer un sujet là-dessus. » Ça, c'est le niveau rédacteur web. Bon. Si jamais vous êtes rédacteur web communicant ou copywriter ou marketeur ou ce genre de truc, vous allez dire « Ok, quelle est la valeur de la marque ? Quel est le persona ? Quels sont les points de souffrance du persona ? Comment je résous ces points de souffrance ? Et comment je vais créer de l'attraction ? Quel est le canal que la personne va utiliser pour venir ? Et comment je fais un texte spécifique à ce canal ?» Ça, c'est des nouveaux chemins qui existent parce que vous vous êtes acculturé à un autre type d'analyse pour répondre à la question d'une manière plus précise. Et ça, c'est ce qu'on peut espérer. C'est-à-dire qu'Elon Musk, quand il a voulu faire réatterrir sa fusée, ben, il est arrivé, il a dit « Ok, moi, je vais prendre des ingénieurs, je vais leur dire « Hey, faites atterrir une fusée. » Ils vont me dire non. Par contre, si je leur dis « Bon, j'ai regardé les choses, faire atterrir une fusée, ça veut dire qu'il va falloir qu'on arrive à développer ça et ça et ça. J'ai découvert qu'on était capable de faire 70% du projet, mais que 30% n'était pas mature en termes de technologie. Je vais donc prendre des spécialistes de l'intelligence artificielle, de la guidance, de la météo, etc. pour travailler sur le module de redescente. Et vous allez travailler, vous, sur des systèmes de basse pression qui permettent de faire redescendre la fusée droite et des stabilisations. » Et là, le projet existe parce qu'il a lu des livres sur comment on fabrique une fusée. Et donc, son raisonnement devient différent. D'accord ? Si vous m'entendez des fois loin, c'est parce que j'ai une notification sur mon téléphone qui me dit que le téléphone est trop près. Donc, tout l'écran devient blanc avec marqué « reculer le téléphone » et parce qu'il pense que je regarde l'écran. Et alors que je parle au téléphone, et donc je dois appuyer sur « OK » et le « OK » n'apparaît que quand le téléphone est à bonne distance. C'est mise à jour d'Apple. Bref, donc, on arrive à créer des nouveaux circuits complexes de raisonnement à partir du moment où on s'acculture, où on rentre dans la culture d'un nouveau domaine, quelque domaine que ce soit. J'ai fait de l'éducation canine, vous savez que j'ai un chien qui s'appelle Oli, hein, c'est devenu une petite star. Ben, Oli, au début, elle obéissait à rien du tout et elle connaissait rien. J'ai dû commencer à faire de l'éducation canine et je l'ai fait en club. Et je recommande à tout le monde d'aller en club. C'est vraiment cool comme expérience. Mais trouver des clubs où ils ne tapent pas sur les chiens. Et j'ai la chance d'avoir trouvé un club comme ça. Et donc, en fait, on m'a appris les rudiments. On m'a guidé, on m'a poussé à aller un peu plus loin là où parfois je me serais arrêté avant. On m'a acculturé à ça, puis ça m'a intéressé. Donc j'ai commencé à faire des formations professionnelles en ligne. J'ai commencé à chercher plus loin, j'ai commencé, etc. J'ai travaillé beaucoup sur ce qu'on avait autour de la communication avec les animaux. J'ai essayé de voir jusqu'où je pouvais aller pour comprendre l'univers du chien. Aujourd'hui, j'ai un chien. J'ai eu d'autres chiens dans le passé, mais ce chien-là, je le connais. Je le connais vraiment. Je le comprends à 90%, parce qu'il y a toujours des moments où elle fait des trucs bizarres, mais j'ai eu des vrais échanges avec elle. Et c'est la meilleure relation que je pouvais espérer avoir. Donc c'est pour vous dire qu'on rentre à l'intérieur d'un univers. Malgré le fait que j'avais eu plusieurs chiens auparavant, je n'étais jamais rentré dans cet univers-là. Alors peut-être que vous allez rentrer dans l'univers. Là, on est en train de discuter, par exemple, au cercle, pour engager une personne senior pour travailler avec nous en assistance avec Fleur et moi, et cette personne nous dit mais moi je n'ai pas de connaissances en informatique, je sais faire, alors si, connaissances quand même d'ordinateur, gestion, écriture, tout ça, ça c'est bon, mais par contre je lui dis tu vas utiliser Canva, tu vas utiliser Notion, tu vas utiliser Workspace, tu vas utiliser ChatGPT, tu vas utiliser d'autres outils, DALI et autres, et elle était là, je ne sais pas. Mais je lui ai dit, ne t'inquiète pas, tu vas avoir des notices, des modes d'emploi, on va passer du temps à t'expliquer et tu vas t'acculturer très doucement, sans qu'on se stresse, avec des mini-tâches au fur et à mesure. Mais on a tous une appréhension face à ces murs gigantesques où on ne sait absolument pas ce qu'on va trouver. Il faut rentrer dans un univers, il faut s'y intéresser, il faut se plonger dedans. Aujourd'hui, vous avez accès à tous les savoirs du monde. Vous pouvez être quasiment qui vous voulez. il y a des processus d'apprentissage qui sont obligatoires, parce qu'il y a plein de moments où vous allez ne pas aller vers certains chemins ou ne pas faire tous les efforts, et il faut que des gens vous poussent au-delà et vous challenge au-delà pour que vous appreniez ce qui est au-delà de la douleur, j'ai envie de dire, même si c'est des douleurs parfois symboliques. Ou alors, il vous faudra parfois de la pratique, beaucoup de pratique, pour commencer à comprendre le sens de certaines leçons. Jusque-là, ça vous échappait complètement. Si je vous dis, utilisez la technique avaler le crapaud dans l'utilisation des to-do list, ceux qui se sont noyés dans les to-do list ou qui ont tout le temps l'impression que leurs to-do list sont en retard et qu'ils sont complètement à la bourre et qu'ils se découragent en longueur de temps, peuvent comprendre ce que veut dire la technique avaler le crapaud. Ça consiste à commencer sa journée par la tâche la plus pénible, de manière à pouvoir avoir une journée fluide après. Les gens savent ce que ça vaut quand ils se sont noyés dans leur to-do list. Mais si vous n'avez jamais fait cette expérience-là, vous ne pouvez même pas comprendre l'intérêt de commencer par un truc douloureux. Alors que pour les gens qui y travaillent, c'est une question de libération. Donc il y a une culture de chaque domaine. Il y a une culture dans tous les endroits où il faut rentrer, et parfois rentrer par la pratique. Mais il n'y a jamais eu autant d'opportunités. Vous vous rendez compte quand même que quand j'étais jeune, quand j'avais moins de 20 ans, les personnes étaient quasiment déterminées par leur naissance. C'est-à-dire, j'exagère à peine, mais vous ne pouviez pas accéder à certains savoirs, à certaines écoles, vous ne pouviez pas comprendre certaines choses, certaines problématiques. Personne ne venait vous expliquer l'histoire, comme Nota Bene le fait, ou la philosophie, comme Monsieur Phi. Personne ne venait répondre à toutes vos questions, comme ChatGPT. Personne ne vous offrait tous les livres du monde sur un plateau, comme Zed Library, ou toutes les versions payantes, Fnac.com et compagnie. Personne ne s'occupait de vous, et de vos projets, et de vos envies. Aujourd'hui, vous pouvez apprendre la guitare gratuitement sur YouTube. Aujourd'hui, vous pouvez faire atterrir des fusées, simplement parce que tous les savoirs du monde vous sont disponibles. Donc c'est une vraie question que je vous pose, parce que aujourd'hui on est en train de faire un changement important au cercle des rédacteurs. On se dit, on a essayé pendant 3 ans de convaincre les rédacteurs en activité qu'ils devaient progresser encore, parce que la très grande majorité d'entre eux n'ont pas de connaissances et de compétences dans le marketing. Or aujourd'hui, la menace avec ChatGPT est réelle. Si on veut que ChatGPT ne nous remplace pas, il faut aider ChatGPT sur la seule chose qu'il ne sait pas faire, à savoir du positionnement et de la stratégie. Donc on arrive à ce moment-là. Et pour ça, il faut des connaissances, des compétences, de la compréhension. Il faut savoir comment est composé un site internet, à quoi il sert, quelles sont les fonctions des pages, etc. etc. Et qu'est-ce qu'un tunnel de vente, et pourquoi est-ce que les textes ont des rôles, etc. Mais on est en train de changer de paradigme et de se dire, en fait, c'est la nouvelle génération avec laquelle il faut qu'on travaille. C'est pas la génération d'avant qui était des rédacteurs exécutants et satisfaits d'avoir des briefings, parce que eux, il n'y en a qu'une partie d'entre eux qui vont se réveiller. Les autres vont juste se dire, bon bah il n'y a plus de travail. Et puis ça veut dire que ChatGPT nous a remplacés, ah là là, dégueulasse, et puis ils vont partir. Ils n'ont pas compris que l'eau monte, mais qu'il fallait monter dans la montagne, entre guillemets. Donc on n'essaye plus, on change de paradigme, parce que justement, en fait, on est face à des gens qui ont accès à tous ces savoirs et qui ne les prennent pas. Au même titre que moi, je ne lis pas les livres qui sont dans ma bibliothèque, alors que ça serait tellement transformateur que d'avoir toutes les connaissances que j'ai acquises sous forme de capsules à consommer, des livres, des conférences, des choses. Bon Dieu, posons-nous et commençons à étudier, parce qu'étudier, c'est évoluer. Et évoluer, c'est changer d'état d'esprit. Je sais qu'un jour, j'ai lu un livre qui s'appelait « Père riche, père pauvre ». Je ne l'ai pas terminé parce qu'à un moment donné, ça ne m'intéressait plus. Mais j'ai trouvé fascinant un point de ce discours-là, parce que ça a vraiment transformé mon regard. Alors que j'étais freelance, comme beaucoup d'entre vous, et que je cherchais des contrats pour avancer, à un moment donné, dans le livre, l'auteur dit « Voilà, il y a ceux qui vendent leur temps en échange d'argent pour une mission donnée, qui font partie d'un système et qui apportent leur force pendant un temps donné. On appelle ça des salariés. Et ils sont tellement... ils donnent ça, on appelle ça une masse salariale. Parce que ça a un poids, ça a un volume, ça ressemble à un muscle, ça a une force. De l'autre côté, on a les entrepreneurs. Et les entrepreneurs ne vendent pas leur temps. Les entrepreneurs fabriquent des machines qui créent de l'argent. des machines dans le sens un peu philosophique des choses, des machines qui fabriquent de l'argent. Ce sont des gens qui fabriquent de l'argent. Donc d'un côté, il y a des gens qui vendent leur temps, et de l'autre, il y a ceux qui fabriquent de l'argent. Là où les salariés ont un salaire, les entrepreneurs ont un revenu. Quelque chose leur revient de tout le travail qu'ils font. Et c'est totalement différent comme paradigme. Donc cette prise de conscience-là, elle a fait toute une croissance qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un rapport à l'entrepreneuriat qui est complètement différent. C'est des graines que l'humanité a mis en commun, dont on ne se saisit réellement pas assez. Je pense, quand je dis vous, j'imagine certains et je me mets dedans, hein, vous croyez que parce que le savoir est disponible, ça signifie qu'il est à vous. C'est faux. Le savoir est disponible comme la mer est disponible. L'aventure n'est pas à vous tant que vous n'allez pas sur la mer. L'aventure commence quand vous mettez un bateau sur la mer et que vous partez, pas regardant la mer en se disant « elle est toujours là, elle sera toujours là ». Toutes les personnes qui font leur crise de la quarantaine et de la cinquantaine pourront vous le dire. À un moment donné, on se demande si le temps n'est pas passé trop vite et si on n'a pas raté certaines occasions. Alors si vous n'êtes pas encore dans cette trentaine et quarantaine, enfin dans cette quarantaine et cinquantaine, je vous recommande fortement de commencer à nourrir votre esprit et toutes ses connexions et toute sa manière de voir en accordant 1 à 2 heures par jour, j'insiste, à l'absorption de nouvelles connaissances. Ça peut être sur les sujets que vous voulez, peu importe, mais à l'absorption consciente et méthodique. Hein, pas vous n'allez pas juste sur YouTube, même si c'est cool. Hein. Et même si je suis le premier à dire que TikTok nous apprend plein de trucs. Moi, j'ai vu des choses pour la première fois. Tous les jours, quand j'utilise Instagram, les Reels, tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Ça me rend fou, comme il y a toujours des nouvelles choses que j'ai jamais putain de vues de toute ma vie. C'est que des premières fois. Donc, bien sûr que ça, c'est génial. Mais je parle pas de ça. Je parle de vous payez une formation, elle est en 4 heures, vous avez lâché 50 euros dedans, vous la faites. Vous faites ça sérieusement, vous essayez d'acquérir les connaissances et les compétences, et puis vous passez au suivant, et vous en faites une habitude. Ou alors, vous revoyez toute votre organisation, et vous allez regarder des vidéos sur le budget, Bullet Journal, sur Make Time, sur le GDS, etc. etc. GTD. Get Things Done. Donc, voilà. Tout ça, en fait... Bon, là... Je vais vraiment désactiver l'option de distance de l'écran parce que c'est ridicule. J'ai dû appuyer sur ce bouton une quarantaine de fois, je pense, depuis que je fais ce podcast. C'est complètement con. À un moment donné, il doit se rendre compte qu'on n'est pas d'accord. Bref, c'est pas au point. Mais c'est pas grave, c'est la bêta. Donc, la bêta de l'iPhone, hein, de la mise à jour du téléphone. C'est ce que je voulais vous dire et je voulais vous ouvrir à ce raisonnement-là parce que il y a ceux qui font... Et il y a ceux qui ne font pas. Il y a ceux qui collectionnent les savoirs sans jamais les consommer et qui pensent les posséder et qui ont tort. Et il y a ceux qui consomment systématiquement et qui sont en croissance perpétuelle. Il y a ceux qui vont comprendre des choses et des grandes vérités que des gens avant eux, dans l'humanité, ont décidé de partager. Il y a un livre de 1940 qui s'appelle « Comment se faire des amis ». C'est un des premiers livres sur le marketing. Allez-y, régalez-vous, je crois qu'il est gratos, on le trouve facilement aujourd'hui. Donc régalez-vous, parce que ça, c'est complètement dingue, c'est que des conseils incroyables. Donc, et vous pouvez vous faire des amis, hein. Si jamais vous n'avez pas d'amis, ça marche. C'est ça ce que je veux vous représenter, d'accord? Je veux juste vous dire ça. Le savoir, aujourd'hui, il parle. Il s'appelle ChatGPT, il parle. D'accord? Donc, vous devriez réellement... commencer à discuter avec lui. Vous devriez vraiment vous poser la question de votre évolution à vous, de votre bibliothèque intérieure. Elle est vide. Vous avez tout à l'extérieur. Ça prend du temps et de l'énergie de faire rentrer les choses. Faites-les rentrer. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Essentiel pour vous et pour votre avenir. Parce que vous passez à côté d'autoroutes qui vous passionneraient si vous saviez qu'elles existaient. Donc continuez à grandir, surtout intérieurement et surtout en rassemblant en vous les connaissances du monde qui vous sont aujourd'hui, je le redis pour que vous en ayez vraiment conscience, 100% offertes. Toute l'humanité vous met à sa disposition l'ensemble de ses savoirs. Pensez-y. Allez, je vous laisse. Bye bye.